Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888.
Pour prolonger les deux dernières chroniques westernosophiques, on pourrait se poser la question de savoir finalement d'où vient le besoin de hiérarchiser les productions culturelles. Hiérarchiser à la fois les activités, opposition entre l'art et l'artisanat, entre les arts majeurs et les arts mineurs, et puis hiérarchiser aussi les œuvres elles-mêmes, en essayant de distinguer les films qui seraient plus ou moins importants. Alors d'où vient cet intérêt? D'abord, peut-être que personnellement, il s'agit pour nous d'affirmer notre perception des choses, de l'affiner aussi, de la cultiver, d'affiner nos critères de jugement, et peut-être donc de cultiver notre exigence, et d'accéder, qui sait, à des formes de satisfaction esthétique plus complexes. Et puis collectivement, peut-être que la hiérarchie, elle relève du besoin de décider quelles sont finalement les œuvres qui méritent plus que d'autres d'être protégées, d'être enseignées, d'être diffusées, etc. Alors, aujourd'hui, j'essaierai de poser la question de cette hiérarchie entre les œuvres à partir de la comparaison de deux films. Un film d'Akira Kurosawa, 1954, Les Sept Samouraïs, et puis un western qui s'en inspire, Les Sept Mercenaires de John Sturge, 1960. Et je vais essayer de montrer dans cette chronique que ces hiérarchies, eh bien, elles ne sont pas purement subjectives et qu'il y a peut-être quelque chose qui relève autre chose que du goût personnel pour distinguer les œuvres. Autrement dit, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir s'il est justifié de considérer Kurosawa comme un grand artiste et John Sturge simplement comme un bon artisan. On a parfois qualifié John Sturge de yes man, c'est-à-dire le yes man, c'est le réalisateur qui travaille surtout sur commande en fait, hein, et qui crée des œuvres à la demande des producteurs.
Brenner, McQueen, Coburn, Vaughn, Brunson, Buchholz, Dexter, The Magnificent Seven.
Alors ce qui est intéressant de voir déjà, c'est que Sturge considérait que son film avait une qualité par rapport à celui de Kurosawa. Il essayait donc de s'en distinguer aussi. Et selon lui, cette qualité, c'était d'avoir davantage personnalisé les personnages, et notamment le chef des bandits, hein, qui est joué par Eli Wallach dans Les Sept Mercenaires. Alors je cite Walter Newman, qui était co-scénariste du film. Voilà ce qu'écrit Walter Newman. « Je pense que le film de Sturge est mieux distribué que celui de Kurosawa. Dans le film de Kurosawa, on ne se souvient que du chef des samouraïs et du spécialiste du sabre. Les 40 bandits forment un ensemble anonyme. Nous avons au contraire typé chacun des 7 mercenaires, leur donnant un passé, et créé le rôle du chef des bandits, en étant persuadé qu'un bandit soigneusement défini est beaucoup plus convaincant que 40 ou même 100 personnages sans visage. » Fin de citation. Alors cette personnalisation des mercenaires notamment, on peut se demander si elle fait la force du film, comme le défend Walter Newman, ou au contraire, si c'est pas un petit peu sa faiblesse aussi. Parce que finalement, la mise en scène de Sturge est relativement anonyme, et quand on se rappelle du film, on a tous vu ce film quand on était enfant, hein, on se rappelle bien des Sept Mercenaires, on se rappelle de la musique d'Elmer Bernstein, mais on se rappelle un peu moins sans doute de la construction des plans, du montage, etc. C'est-à-dire ce qui relèverait justement peut-être de l'art de John Sturge. L'idée d'ailleurs de typer fortement chacun des Sept Mercenaires était venue assez tardivement à John Sturge, et ça avait été un sujet de conflit avec Steve McQueen qui avait été un peu vexé parce qu'il pensait être la seule vedette du film avec Yul Brynner, et en fait ça lui échappait un peu, ce rôle de vedette lui échappait un peu dans la mesure où les 5 autres mercenaires étaient aussi fortement individualisés. Alors la comparaison des deux films, qui ont des scénarios assez proches, hein, elle montre que justement l'intérêt d'un film est peut-être moins dans ses thèmes ou dans son scénario que dans sa forme. Et à cet égard, c'est vrai que là, la puissance plastique des sept samouraïs lui confère sans doute une supériorité. Dans les sept samouraïs, il y a une tension permanente au niveau du rythme, au niveau du montage, au niveau des valeurs plastiques. Hein. Bon, c'est un film en noir et blanc, ce qui s'oppose au rythme finalement assez mou des sept mercenaires. Et d'ailleurs, dans les sept mercenaires, ce qui est aussi un signe, John Serge recourt plus fréquemment au dialogue pour expliciter le sens du film et pour expliciter la fin de monde, puisque ces deux films, en fait, portent sur la fin d'une certaine idée du monde et en gros sur le triomphe du travailleur sur le guerrier, qui n'est pas d'ailleurs sans évoquer le fameux texte de Hegel sur la dialectique du maître et de l'esclave auquel je peux renvoyer l'auditeur.
Vous pourriez rester, vous savez. Il ne serait pas mécontent que vous restiez.
Et pas mécontent que nous partions.
Non, la bataille est terminée. Et votre tâche aussi. Pour ces hommes, chaque saison a ses tâches. S'il y avait une saison pour la gratitude, ils vous en témoigneraient plus.
Nous ne nous attendions pas à ce qu'ils nous en montrent plus.
Seuls les fermiers ont gagné. On ne peut jamais en triompher. Ils sont la terre, ils sont indestructibles. Vous les avez aidés à se débarrasser de Calvera, comme un coup de vent les aide à se débarrasser des sauterelles. Vous êtes pareil au vent. Vous soufflez sur la terre et partez au loin. Allez, que Dieu vous garde.
Adieu.
Donc, cette différence entre les deux films, elle est très nette, par exemple, dans la toute dernière scène. La version de Kurosawa, de la fin du film, est beaucoup moins bavarde et beaucoup plus visuelle. Hein. Il y a quelque chose d'extrêmement construit dans les plans. Il y a la sortie du champ, par exemple, du jeune samouraï. Il y a le vent sur les tombes qui est tout à fait marquant. Et ça s'oppose à ce que je dirais être la mièvrerie des jeunes Mexicains qui viennent fleurir la tombe du mercenaire qui est interprété par Charles Bronson, auquel ils rendent hommage. Et il y a vraiment là un contraste. Si on veut se faire une idée de la différence entre les deux films, il suffit de voir les 10 dernières minutes et on a un résumé de cet écart. D'ailleurs, il y avait un texte d'André Glucksmann qui est quasiment contemporain de la sortie du film. Hein, c'est un texte de 1964 qui a été repris dans le livre titré Le Western chez Gallimard. Et voilà ce qu'écrit Glucksmann. Pas de grand tragique sans affirmation de sa nécessité. Amor fati, dit Nietzsche. Cette nécessité se découvre dans le statut de la loi, comme le montrent les sept mercenaires. Malgré un didactisme affligeant, ce film n'en constitue pas moins une sorte de somme politique du western. Fin de citation. Voilà, didactisme affligeant, et plus loin, Glucksmann dit que le film tombe souvent dans l'image et même dans la musique d'Épinal. Alors, bien sûr, on pourrait essayer de nuancer cette opposition et ce jugement. D'ailleurs, comparer ces deux films est peut-être un peu injuste pour les sept mercenaires, dans la mesure où les sept samouraïs est vraiment un chef-d'œuvre et que, voilà, comparer un film aux sept samouraïs, c'est peut-être un petit peu injuste. Alors, pour défendre les sept mercenaires, ben, on peut dire quand même qu'il s'agit d'une variation intéressante sur le thème du suicide héroïque. Thème qui apparaît aussi dans les sept samouraïs, bien sûr. Hein. Alors, ce thème du suicide héroïque, il est infusé dès le départ par Sturge par la forte présence de la mort. Et d'ailleurs, Chris, qui est joué par Yul Brynner, peut être vu comme une figure du passage entre la vie et la mort. Il met aussi en scène de manière intéressante un thème assez classique du western, finalement, c'est la violence autodestructrice, qui a ici une dimension esthétique autant qu'éthique, puisque finalement, ces sept mercenaires comprennent que le monde moderne ne sera plus fait pour eux, qu'ils doivent disparaître, comme les sept samouraïs. Et donc, il y a quelque chose d'autodestructeur. Alors, à la fois, bien sûr, il va y avoir une sorte de suicide collectif dans cette entreprise un peu hardie qu'ils vont mener, mais aussi, peut-être plus subtilement, il y a un jeu sur le cloisonnement de l'espace, puisque finalement, le westerner héroïque, c'est celui qui se déplace dans des espaces ouverts. Les open range, les fameux open range du western, où il n'y a pas de barbelés, où il n'y a pas de limite, où on voit où on veut, où on peut errer, où on peut développer son héroïsme. Et donc, les espaces fermés, c'est toujours un peu la mort du western et la mort du westerner, puisque les espaces fermés sont ceux de la civilisation, de l'agriculture, de la loi, etc. Et bien ici, ce qui est intéressant, c'est que les gunners eux-mêmes, les westerners, les sept mercenaires en l'occurrence, et bien ils participent eux-mêmes au cloisonnement et à la fermeture de l'espace. Et d'ailleurs, c'est un film, il faut le remarquer, qui est assez étouffant, avec des perspectives assez bouchées et très peu de grands espaces qui font souvent la caractéristique des westerns. Donc en fait, peut-être que cette comparaison entre les sept samouraïs et les sept mercenaires, elle est intéressante parce qu'on se rend compte que la frontière entre d'un côté les grands chefs-d'œuvre et de l'autre les purs navets, ben, elle n'est pas nette, elle n'est pas étanche. Et il est évident que le film de Sturge n'est ni un grand chef-d'œuvre ni un AV. Donc on voit qu'il y a de la place en fait pour des œuvres intermédiaires dans les hiérarchies. Alors ce western, bien sûr, Les Sept Mercenaires, il me rappelle mon enfance. D'ailleurs j'envoie un petit salut amical à mon père Fredo qui me l'avait montré quand j'étais petit, comme beaucoup d'autres westerns. Et il m'a donné envie en fait de consacrer quelques chroniques westernosophiques à la question de savoir si on peut philosopher avec les enfants et si on peut éventuellement même philosopher avec les enfants à partir de western. Et la prochaine chronique sera donc orientée autour de cette question avec l'évocation d'un film de John Ford de 1948 qui s'appelle Le Fils du Désert.
Le monde se divise en deux catégories, ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.radiogrenouille.com.